l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 18h en temps universel, 21h à Riyad.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et tous.
Et à la une ce soir, ce tête-à-tête historique en Arabie Saoudite.
Les chefs de la diplomatie russe et américaine ont échangé pendant 5 heures à Riyad, avec au programme notamment l'organisation d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine et les négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine. Nous ferons le point dans un instant sur ce qui s'est dit et sur les réactions que cette rencontre suscite, notamment à Kiev. L'Ukraine n'a pas été conviée. Le Hamas annonce qu'il va libérer 6 otages israéliens vivants samedi prochain et rendre aussi le corps de 4 captifs décédés à Gaza. 3 orphelins français nés de parents djihadistes rapatriés de Syrie hier. Nous écouterons ensemble le soulagement de l'avocate de leur famille. Au sommaire également, Paris qui n'atteint pas ses objectifs climatiques. Le Vietnam qui s'apprête à sabrer les effectifs de la fonction publique. Et puis juste après ce journal, Romain.
Eh bien, nous appellerons nos collègues du journal suisse Le Temps qui évoque une récupération politicienne des faits divers en France et le temps de citer bien l'affaire Betarame, du nom de cet établissement catholique visé par des enquêtes pour des faits de violence.
Aujourd'hui était la première étape d'un voyage long et difficile, mais important. Le président Trump est déterminé à mettre un terme à ce conflit. Comme il l'a dit lors de sa campagne présidentielle, il souhaite que ce conflit se termine de manière équitable et durable. Sinon, cela amènera à un autre conflit dans 2 ou 3 ans. Ce ne sera pas facile à réaliser, mais il est le seul au monde à pouvoir entamer ce processus. Et ce jour a marqué la première étape de ce processus.
Cette voix que nous venons d'entendre, c'est celle de Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, à la sortie d'une rencontre avec son homologue russe ce mardi à Riyad, un tête-à-tête historique, la première réunion en personne à ce niveau depuis le début de la guerre en Ukraine il y a quasiment 3 ans.
Et réunion à laquelle ni l'Ukraine ni l'Union européenne n'étaient conviées.
Au bout de 5 heures, les deux parties ont convenu d'établir, je cite, un mécanisme de consultation pour régler les contentieux entre les deux pays et de nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine. Romain Lemaresquier du service international est avec nous en studio pour en parler. Bonsoir Romain.
Bonsoir Diane, bonsoir à tous.
Que peut-on retenir de cette première prise de contact ?
Eh bien tout d'abord, cette réunion de ce mardi est un premier pas en vue d'un rétablissement des relations entre les États-Unis et la Russie. Un premier pas qui ne signifie en aucun cas qu'une solution va être rapidement trouvée pour mettre fin à la guerre en Ukraine, même si Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, se disait tout à l'heure convaincu que Moscou souhaitait s'engager dans un processus sérieux, ce sont ses mots, pour mettre fin à la guerre.
Il va donc falloir attendre que les deux parties nomment des équipes de négociateurs pour que le véritable travail puisse commencer.
Tout à fait. Le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Ushakov, qui était à Riyad, a d'ailleurs calmé les ardeurs, expliquant qu'il était encore trop tôt pour parler de dates concrètes pour une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
Romain, a-t-il été question d'une participation de l'Ukraine et de l'Union européenne à cette discussion ?
Alors, côté américain, le discours est un peu confus. Marco Rubio, à l'issue des 5 heures de pourparlers, a laissé entendre que les Européens devraient également prendre part aux discussions et qu'il fallait qu'un éventuel accord sur l'Ukraine soit acceptable pour tous. Mais si l'on s'en tient au communiqué du Département d'État américain, il n'est aucunement question de la participation de responsables ukrainiens ni européens.
Et du côté russe ?
Eh bien, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que Vladimir Poutine serait prêt, si nécessaire, à négocier avec le président ukrainien. C'est une première depuis le début du conflit en Ukraine, mais on ne sait pas si Dmitri Peskov évoquait là les négociations que la Russie souhaite mener avec les États-Unis ou s'il s'agirait d'échanges bilatéraux entre Russes et Ukrainiens.
Et est-ce qu'il y a eu une réaction de leur part depuis ?
Alors Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui a rencontré aujourd'hui Keith Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump sur l'Ukraine, réclame de pouvoir faire équipe avec les États-Unis pour une paix juste et durable. Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky, qui était lui en déplacement en Turquie ce mardi, a annoncé tout d'abord qu'il annulait son déplacement demain en Arabie Saoudite. Il ne souhaite pas qu'il y ait de quiproquo suite à la rencontre entre Russes et Américains. Il réclame des pourparlers, je cite, équitables, qui incluent l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie, sachant que le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé également tout à l'heure que son pays accueille ces fameuses négociations.
Et puis la France va organiser une deuxième réunion sur l'Ukraine demain mercredi avec des pays alliés de l'OTAN qui n'étaient pas présents à la réunion d'urgence organisée hier à l'Elysée. Merci beaucoup Romain Lemaresquier du service international de RFI pour ce dossier détaillé.
En tout cas, Diane Berger, cette réunion à Riyad le confirme, les États-Unis ne travaillaient plus plus main dans la main avec le vieux continent.
Dans ce contexte, Bruxelles et Berlin se disent prêts à revoir les règles de déficit imposées au sein de l'Union européenne. L'objectif, c'est d'augmenter significativement les dépenses militaires des pays membres. Un projet soutenu par le président français, Emmanuel Macron, est relativement consensuel au sein de la classe politique. Victorien Villaume l'a constaté à l'Assemblée nationale.
Les États-Unis menacent de réduire leur soutien à l'OTAN et il est temps que l'Europe se réveille, s'accordent à dire de nombreux députés. Dans le camp présidentiel, Éléonore Carrois, du Parti Renaissance.
La déclaration de J.D. Vance à Munich fait l'effet d'une douche froide et je pense que c'est une réaction qui est assez salutaire. On ne peut pas ignorer les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'Europe et il est absolument important qu'on soit indépendant et autonome aussi dans notre capacité à nous défendre.
À gauche, on estime qu'il ne faut pas hésiter à s'affranchir de la règle des 3% de façon générale pour l'écologie. Mais donc également pour investir dans la défense, l'écologiste Benjamin Lucas.
Faut pas qu'on soit naïf. Monsieur Trump nous met au pied du mur. Nous sommes aujourd'hui pris en tenaille entre Monsieur Trump et Monsieur Poutine, dont aucun des deux n'a à cœur la survie du continent européen. Je pèse mes mots.
A contrario, le Rassemblement national dénonce une idée absurde avec un risque de dérapage budgétaire. Philippe Ballard.
Ça n'existera jamais une défense européenne. Là, on risque de perdre, si on va jusqu'au bout de ce mécanisme, notre souveraineté financière en matière de gestion de la déficit et de la dette. Donc, c'est une très, très, très mauvaise idée.
La France a de toute façon voté il y a déjà un an et demi un budget en forte hausse pour les armées, 400 milliards d'euros de dépenses sur 7 ans.
Victorien Villaume du service politique de RFI.
Dans l'actualité au Proche-Orient à présent, le Hamas qui va samedi libérer 6 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza.
L'organisation islamiste palestinienne va aussi rendre le corps de 4 autres d'entre eux, les premiers otages décédés qui vont être remis à Israël jeudi. Ce sont les premiers donc à être remis à Israël depuis le début du cessez-le-feu. Parmi ces victimes, il y aurait des membres de la famille Bibas enlevés le 7 octobre 2023 avec ses 2 jeunes enfants. Leur cas avait profondément ému la population israélienne. Pierre-Olivier, vous êtes notre envoyé spécial à Jérusalem et Israël ne confirme ce soir aucune identité.
Non, pour l'instant, Diane, Israël confirme seulement qu'il y aura bien 4 corps qui lui seront remis jeudi, mais sans donner davantage de détails. Un peu plus tôt dans la journée, pourtant, le Hamas a précisé que les 2 enfants Bibas et leur mère feraient partie de ces 4 corps. Le père, lui, a été, je vous le rappelle, libéré vivant il y a quelques semaines. Prudence pour l'instant du côté de la famille qui, dans un communiqué, assure ce soir qu'elle n'a reçu aucune confirmation et que le combat continue jusqu'au dernier moment. De son côté, Israël s'organise déjà pour ce premier retour de corps sans vie depuis le 15 janvier. Les dépouilles seront dès leur réception transférées à l'Institut médico-légal de Tel Aviv et ce n'est qu'une fois les identifications faites que les noms seront transmis aux familles. Samedi prochain, 6 otages seront libérés et à nouveau, 4 corps seront rendus la semaine prochaine, juste avant la fin de cette première phase de cessez-le-feu. La deuxième phase, elle, devrait débuter le 2 mars et les pourparlers commencer dès cette semaine. Annonce faite aujourd'hui par le ministre israélien des Affaires étrangères qui exige une démilitarisation totale de la bande de Gaza.
Merci beaucoup Pierre-Olivier en direct de Jérusalem pour RFI. Plus au nord, Israël maintient des soldats dans 5 points stratégiques du sud du Liban à la frontière entre les deux pays. L'armée aurait pourtant dû retirer toutes ses troupes ce mardi d'après l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Londres se dit profondément inquiet concernant le sort d'un couple de Britanniques accusés d'espionnage en Iran. Leur cas a été rendu public aujourd'hui, mais ils ont été arrêtés en janvier par les gardiens de la Révolution. Selon la BBC, ils se trouvaient en Iran parce qu'ils réalisaient un tour du monde à moto. Une interpellation alors que depuis plusieurs années, Téhéran arrête régulièrement des touristes étrangers accusés d'être des espions.
Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI, il est 18h09 en temps universel. Diane Berger, on va revenir à présent sur le cas de ces 3 orphelins français nés de parents djihadistes.
RFI avait retrouvé leurs traces à Damas il y a 2 mois et ils ont été rapatriés en France hier, lundi. Muriel Paradon, il vivait dans un orphelinat de la capitale syrienne depuis 5 ans.
Ils ont 6, 11 et 12 ans, 3 frères et sœurs qui ont vécu l'enfer de la guerre. Les bombardements, les camps, l'errance. Leurs parents, des djihadistes français, sont morts en 2019 dans le nord-est de la Syrie. Eux ont atterri dans un orphelinat de Damas, côté régime. 5 ans après, la France les rapatrie enfin. Soulagement de leur famille, leur avocate Marie Dosé.
5 années, c'est tellement long. Pour eux, mais pour leurs familles en France aussi, parce que leurs familles respectives ont gardé des relations avec ces enfants. Ces enfants n'arrivent pas en France sans rien connaître de leur histoire. Ils savent que leur famille les attend et ils ont tissé un lien, même virtuel, avec leur famille. Donc il était vraiment temps qu'ils rentrent.
La France a attendu la chute de Bachar el-Assad il y a 2 mois pour travailler au rapatriement des 3 orphelins. Trop compliqué avant cela, selon Paris, il n'y avait pas de relation diplomatique avec l'ancien régime. Un argument qui ne tient pas pour l'avocate Marie Dosé.
Moi j'ai toujours du mal avec cet argument parce qu'il n'y a pas de lien diplomatique non plus avec le nord-est syrien. Le nord-est syrien, ça n'est pas un État souverain. Et force est de constater que 169 enfants ont été rapatriés du nord-est syrien en 2022 et 2023.
Dans le nord-est syrien, sous contrôle kurde, il reste encore 120 enfants français et leur mère djihadiste détenus dans un camp.
Muriel Paradon, alors ça nous amène à évoquer l'actualité française avec ce revers concernant les ambitions climatiques de Paris.
Le président Emmanuel Macron avait promis en 2022 que son second quinquennat serait écologique. Moins de 3 ans plus tard, on peut déjà se poser quelques questions concernant le bilan en la matière. En effet, nous avons appris la démission d'Antoine Pélion, peu connu du grand public. Il occupait le poste de SGPE, secrétaire général à la planification écologique. Il rend son tablier alors que les récents résultats français en la matière sont mauvais. Pas de quoi rassurer Anne Bringo, la directrice des programmes du RAC, le réseau Action Climat.
Les émissions de gaz à effet de serre en France ont repris une hausse au troisième trimestre 2024. Donc concrètement, les mesures qui n'ont pas été mises en œuvre ont occasionné une nouvelle hausse des émissions de gaz à effet de serre avec un impact malheureusement néfaste pour le climat. On est donc des reculs sur les mesures politiques. En revanche, quand on regarde l'opinion publique, la préoccupation pour les sujets environnementaux ou pour le changement climatique reste très importante. Il y a par contre le personnel politique qui considère que maintenant c'est plutôt un sujet sur lequel on doit taper pour des raisons dites de simplification, alors qu'en fait soutenir la transition écologique, ce n'est pas créer plus de paperasse, c'est très différent, c'est simplement effectivement mettre en cohérence des politiques pour avoir une alimentation plus saine, pour avoir des moyens de se déplacer avec moins de pollution. Donc ce décalage entre les attentes de la population et le personnel politique est très préoccupant.
Anne Bringo, la directrice des programmes du réseau Action Climat, elle répondait à Simon Rosé. Un autre sujet a agité les députés français, le scandale de Notre-Dame de Bétarame, une école catholique, au cœur de plus d'une centaine de plaintes pour des violences physiques, des agressions sexuelles et des viols. Le Premier ministre François Bayrou l'a répété devant les députés, il n'est jamais intervenu, dit-il, pour faire étouffer l'affaire dans les années 90, alors que sa femme travaillait dans l'établissement et que plusieurs de ses enfants y étaient scolarisés.
Alors, il n'y a pas qu'en Argentine ou encore aux États-Unis qu'il y a des coupes, entre guillemets, à la tronçonneuse dans les dépenses publiques.
Non, cela concerne aussi un autre pays, de l'autre côté du Pacifique et à l'autre bout du spectre politique. Le Parti communiste vietnamien se lance à son tour dans une réduction drastique des dépenses. Nathanaël Vitran, une réforme pourrait entraîner la suppression de plus de 100 000 postes de fonctionnaires.
Dès le mois de décembre, le nouveau chef du parti unique au pouvoir, Tholam, avait prévenu « Parfois, le remède est amer et il faut souffrir et se séparer des tumeurs pour avoir un corps fort et en bonne santé. » Les tumeurs, en l'occurrence, ce sont les 100 000 fonctionnaires qui pourraient se retrouver sans emploi dans les prochains mois, alors que plusieurs ministères, agences gouvernementales et médias d'État vont fermer. Le parti communiste, qui contrôle le pays sans partage depuis la fin des années 1970, vise une réduction de 20% de la taille de l'État. L'objectif affiché est de redonner au gouvernement une capacité d'investissement, alors que les dépenses courantes et les salaires des fonctionnaires représentent aujourd'hui 70% du budget national, d'après les autorités. Il faut dire que le pays dépend fortement des investissements extérieurs et que si le Vietnam a largement bénéficié de la guerre commerciale entre Washington et Pékin lors du premier mandat de Donald Trump, il pourrait cette fois pâtir des droits de douane imposés tous azimuts par le président américain.
À noter que les ministères régaliens du Vietnam, notamment celui de la sécurité, ne sont pas affectés par cette cure d'amaigrissement. Et puis un mot très rapide du prix Découverte RFI. La lauréate a été désignée aujourd'hui. C'est la chanteuse guinéenne Queen Rima. Elle sera ce soir dans Couleur Tropicale à partir de 20h10 temps universel.
Vous avez écouté un petit peu Queen Rima ou pas?
Ah bah
encore,
oui, j'ai
Diane
découvert.
Berger.
C'est très très sympa. Ah bah, j'ai beaucoup aimé.
On va écouter ça dans Couleur Tropicale avec l'ami Claudicien. Merci beaucoup Diane Berger. C'était le grand journal du soir sur RFI. 18h15 en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et alors, dans cette édition, on a évoqué l'affaire Betarame, du nom de cet établissement catholique, qui est visé par des enquêtes pour des faits de violence à partir de ce fait divers et d'autres plus récents en France. Eh bien, nos collègues du journal suisse Le Temps évoquent une récupération politicienne en France. Nous les appellerons dans les prochaines minutes. Et puis toujours en France, Robert Ménard, qui a refusé ce mardi de plaider coupable. Le maire d'extrême droite de la ville de Béziers était devant la justice pour avoir refusé de marier une Française et un Algérien en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, ce qui est complètement illégal. Nous avons rencontré Eva, c'est elle qui devait épouser Mustapha. Reportage à suivre. Pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Babacar Diarra.
Bonsoir Romain.
Allez, le foot, les barrages, retour de la Ligue des Champions, il démarre ce soir. C'est une nouvelle semaine de Ligue des Champions qui débute. L'avenir européen de l'AS Monaco va se décider à Lisbonne et ça va commencer dans un peu moins de deux heures.
Les Monégasques sont en ballotage défavorable avant de se déplacer sur le terrain du Benfica pour renverser leur défaite 1-0 de mercredi dernier. Des deux côtés, il faudra innover avec des effectifs décimés par les blessures et des suspensions. Monaco n'aura par exemple qu'un milieu défensif valide, le Sénégalais Lamine Camara, mais le carton 7 buts à 1 de l'ASM face à Nantes ce samedi en championnat donne un capital confiance nécessaire en vue d'un éventuel exploit à Lisbonne, d'après l'entraîneur monégasque Adi Hütter.
Oui, Benfica a l'avantage après le résultat à Monaco, mais nous sommes ici et nous ne voulons pas être un gentil adversaire. Nous voulons nous concentrer sur ce match à élimination directe et nous sommes ici pour faire tout ce que nous pouvons pour le gagner. On sait aussi que dans ce stade, il y a cette folle ambiance. Ce sera difficile, mais nous devons être convaincus que nous pouvons gagner ici. Pour cela, nous avons besoin d'une performance au top. Ils sont les favoris. Ils ont un avantage sur le résultat, mais le favori ne gagne pas toujours. Et c'est notre chance. Et mes joueurs, après le 7-1 contre Nantes samedi, ont vraiment une grande confiance. Ils sont prêts, ils veulent se battre et on verra ce qui se passera sur le terrain.
Benfica Monaco, coup d'envoi à 21h, heure de Paris, à la même heure. L'Atalanta sera sous pression face au club Bruges sur sa pelouse de Bergame, 6 jours après sa défaite 2-1 en Belgique. Et le Bayern Munich va essayer de faire fructifier sa victoire sur le même score à l'aller face au Celtic Glasgow. Côté bavarois, la présence de l'anglais Harry Kane, touché à la mâchoire, reste en balance. Il ne s'est pas entraîné en veille de match. Mais quoi qu'il en soit, l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, se méfie des Écossais accrocheurs.
Quand vous jouez contre des équipes qui ont l'habitude d'être très dominantes dans leur championnat, cela signifie qu'elles ont l'habitude aussi de marquer beaucoup de buts. Et c'est forcément toujours un danger tout le long des matchs. C'est ce que Celtic a montré chez lui à l'aller. Je pensais que nous avions plutôt bien géré la situation en première mi-temps et ça s'est compliqué ensuite. Nous n'en sommes qu'à la moitié de notre confrontation et les paramètres n'ont pas changé. C'est une équipe qui est vraiment dangereuse et nous allons devoir l'être aussi. C'est un match à domicile et nous devons faire en sorte que cela tourne à notre avantage.
Vincent Kompany avant le Bayern Celtic de ce soir.
Et en ce moment, dans ces barrages, un grand d'Europe est en danger.
L'AC Milan, deuxième club le plus sacré de l'histoire de la C1, avait été battu 1-0 à l'aller aux Pays-Bas face au Feyenoord. Les Lombards ont remis les deux équipes à égalité dès la première minute avec un but du Mexicain Santiago Jiménez qui, pour l'anecdote, portait le maillot de Rotterdam jusqu'au début du mois.
Voilà pour le foot. Les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Alors cet après-midi, ils ont pris leur véritable élan. Ça s'est passé à Décines dans la banlieue de Lyon avec la présentation du comité d'organisation.
Ce que COJOP devait être annoncé il y a plusieurs mois, mais la séquence a pris du retard, après le retrait du champion olympique de biathlon Martin Fourcade. C'est Edgar Gros-Piron, champion olympique de ski de bosse au JO d'Albertville de 1992, qui a officiellement été présenté. Le nouveau visage des JO 2030 a livré sa vision pour l'organisation de la compétition.
Il faut qu'on organise des jeux impeccables, irréprochables. On fera tout ce qui est en notre possible, de notre mieux, pour faire en sorte que ces jeux est une empreinte écologique la plus mesurée possible. C'est mon mandat, mais je vais pas le faire tout seul, évidemment. Je vais être le porte-parole d'abord des athlètes qui sont là, parce qu'on organise d'abord des jeux pour les athlètes. Et je vais chercher le consensus pour faire en sorte qu'on avance. Même si j'ai une vision, je suis pas là pour l'imposer, mais je suis là pour convaincre de ce qui va être bon pour ces jeux, si on arrive à faire ça, tous ensemble, on va ressortir, mais de là avec une fierté. On ne refermera jamais cette parenthèse olympique qu'on a ouverte cet été.
Edgar Gros-Piron, président du COJOB des Jeux Olympiques d'hiver 2030, au micro de Nicolas Feldman.
Et dans le journal des sports de Bavacardia. Merci à vous, 19h20, ici à Paris. En France, à présent, c'est une affaire qui n'en finit pas de prendre de l'ampleur et qui éclabousse le Premier ministre François Bayrou, l'affaire Betarame, du nom de cet établissement catholique visé par des plaintes pour violence, notamment violence sexuelle. Cet établissement Betarame, qui est un collège-lycée situé dans la région de Pau, dans le sud-ouest de la France, où le Premier ministre est maire. François Bayrou affirme n'avoir jamais été informé de ces accusations. Encore cet après-midi, il a dit n'être jamais intervenu dans cette affaire, je cite, ni de près ni de loin, mais François Bayrou est mis en cause par une partie de la classe politique. Bonsoir Paul Ackermann.
Bonsoir.
Correspondant à Paris du journal suisse Le Temps. Alors cette affaire, ainsi que d'autres faits divers qui, ces derniers temps, ont touché la France, est au cœur de la chronique que vous publiez cette semaine, qui est en ligne depuis aujourd'hui, mardi, et dans laquelle vous dénoncez une récupération politicienne. D'où ma première question, est-ce que vous diriez que cette instrumentalisation que vous évoquez est une spécificité française ?
Je pense que sur des cas comme ça, très personnels, c'est en tout cas moins le cas en Suisse, parce qu'aussi le système... Suisse et je pense plusieurs systèmes européens sont moins personnalisés que le système français. C'est vrai qu'en France, la figure du président ou la figure du premier ministre centralise un peu toutes les attaques. Et là, on voit qu'on se concentre sur une histoire qui se passe dans le collège où les enfants du premier ministre étaient scolarisés. Et donc, je pense que la personnalisation du système français, en tout cas par rapport au système suisse, mais c'est aussi le cas par rapport au système allemand ou de tous les système parlementaire, fait que l'instrumentalisation de ce type est plus forte en France qu'en Suisse, en tout cas.
Vous êtes surpris par l'ampleur que prend cette affaire, des voix s'élèvent, notamment à gauche, pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, pour réclamer la démission de François Bayrou, le Premier ministre.
Alors en fait, l'affaire elle-même, elle est très importante, et les centaines d'accusations, ou la centaine d'accusations de sévices sont évidents, et c'est évident que l'affaire doit faire débat. Ensuite, en ce qui concerne l'implication du Premier ministre lui-même, sur des faits d'il y a 30 ans où il n'est pas directement impliqué, mais la principale accusation qui lui est faite, c'est d'avoir menti entre guillemets devant l'Assemblée en répondant qu'il n'était pas au courant, mais en fait lui dit j'étais pas au courant des agressions sexuelles, pas des violences, parce que les violences il avait commandité une inspection de à l'époque où il était il y a 30 ans donc ministre de l'Éducation. Donc l'ampleur que ça prend quand on en arrive à demander la démission du Premier ministre pour une implication aussi lointaine, oui, ça me surprend. Et puis d'ailleurs, vous dites la gauche, les demandes de démission, elles viennent des insoumis, pas de la gauche en général. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui...
Ça a été réclamé par Olivier Faure en dimanche. Alors, secrétaire du Parti Socialiste.
Olivier, lui, il demande à ce qu'on se penche sur le sujet pour un peu démêler le vrai du faux. Et s'il devait y avoir une implication directe, là, il ouvre la porte à cette demande-là. Mais il ne la fait pas directement sur cette accusation de mensonge. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est que, et c'est un peu ce qui était à l'origine de cette chronique, c'était que je n'entendais que les insoumis, parce qu'en fait, c'est les seuls qui demandent la démission. Et donc, on base une sorte d'énorme polémique nationale sur des demandes d'un parti dont on sait qu'il instrumentalise ça pour en gros provoquer le chaos, ce qu'il revendique hein, comme agenda de provoquer une démission et donc une élection présidentielle anticipée qui le mettrait en bonne position. Donc ce qui me choque, c'est pas le traitement de l'affaire elle-même, qui est très importante et qui doit être traitée vraiment très sérieusement, mais c'est l'utilisation politique qui en est faite. Et puis effectivement, je le mets en parallèle parce que c'est vraiment pas une exclusivité des insoumis. De l'autre côté du spectre politique, il y a eu ces meurtres au couteau d'adolescents où l'instrumentalisation a aussi été poussée au maximum, où on a où des médias qui portent l'agenda d'extrême droite et suivis par les politiques se penchaient voire sur l'origine des coupables et voire même se trompaient complètement. Et quand ils se rendaient compte qu'ils s'étaient trompés et que c'était pas une personne d'origine étrangère qui avait fait, qui avait tué, et ben on n'entendait plus parler. Donc cette instrumentalisation, c'est ce que je dis dans ma chronique, elle est vraiment à tous les étages et avec le seul but de créer encore plus de tensions en France pour provoquer une crise qui amènerait une sorte de duel entre extrême droite et gauche radicale à une présidentielle anticipée.
Et comment expliquer que cette instrumentalisation, l'extrême gauche y participe parce que historiquement, l'extrême droite se nourrit des faits divers?
Bah là, on voit bien. Hein, je pense que c'est les mêmes méthodes un peu populistes. L'extrême droite va se pencher sur des faits de violence, des faits divers type violence. Et puis là, ben, c'est parce que ça touche une école catholique, un premier ministre de centre droit, donc je pense pas que l'extrême gauche est plus modérée sur ce type d'utilisation. Elle le montre bien cette semaine justement.
La récupération politicienne à tous les étages pourrit le débat français. C'est le titre de votre chronique, donc à lire cette semaine dans Le Temps et évidemment sur le site internet du Temps, le journal suisse. Merci beaucoup, Paul Ackermann.
Merci à vous.
En France, Robert Ménard était ce mardi devant la justice. Le maire d'extrême droite de la ville de Béziers, dans le sud-ouest de la France, était convoqué pour avoir refusé, il y a un peu moins de 2 ans, de marier une Française et un Algérien en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. C'est un refus qui est illégal. Ce mardi, Robert Ménard a refusé de plaider coupable et, en conséquence, il sera convoqué à une date ultérieure devant le tribunal correctionnel. Alors, nous avons rencontré l'une des deux parties de ce mariage qui n'a jamais vu le jour, c'est Eva, la fiancée, Mustapha, lui, ayant depuis été expulsé. C'est un reportage de Marie Cazalebé.
On n'imagine jamais que le jour qui est censé être le plus beau jour de sa vie va se passer comme ça.
C'est en regardant la télévision qu'Eva et son fiancé apprennent la nouvelle. Sur le plateau de la chaîne privée CNews, le maire de Béziers, Robert Ménard, annonce en direct qu'il ne les mariera pas. Nous sommes la veille de la cérémonie.
Vous allez le marier ?
Mais bien sûr que non. Ce type est en situation irrégulière. Mais si on veut le mettre dehors, mais écoutez, que la police des airs et des frontières, je leur donne rendez-vous vendredi à la mairie, ils le trouveront, puisqu'il vient à 11h se marier.
Quitte à vous mettre, vous, hors la loi.
Mais bien sûr, tant pis, quand le droit est à ce point contre la logique, le bon sens, l'évidence.
Moi, on est stupéfait, on ne dort pas de la nuit, je décide quand même d'aller voir M. Ménard pour discuter avec lui, parce que je me dis qu'il peut déléguer un officier d'état civil, mais qu'il ne peut pas gâcher le jour J, l'amour de deux personnes pour des opinions politiques. Malheureusement, quand on se présente à l'heure du mariage, c'est là que le drame a commencé, entre guillemets.
Une nuée de caméras les attend sur le parvis de la mairie. L'élu a prévenu la presse. Le couple parvient malgré tout à atteindre l'entrée du bâtiment.
Et là, en fait, la sonnette d'alarme retentit. Les portes de la mairie nous sont fermées au nez à la demande de M. Ménard pour exprimer son refus. Enfin, on ne traite pas les gens comme ça.
Et 2 semaines plus tard, Mustapha est renvoyé en Algérie. Le mariage n'aurait jamais pu empêcher son expulsion. Mais pour Eva, les 2 événements sont forcément liés au vu de la médiatisation de l'affaire et de la mobilisation du maire.
Dans la semaine qui a précédé le mariage, j'ai saisi tout le monde. La police des airs et des frontières, le sous-préfet, le préfet, le ministre, le procureur en leur disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'appliquer, l'OQTF que vous avez délivré ?»
L'avocate du couple a saisi la justice pour dénoncer une expulsion illégale. Elle soutient que son client n'a vu ni avocat ni juge avant d'être placé dans un avion. Le tribunal administratif se prononcera sur ce volet vendredi. Robert Ménard, lui, devra s'expliquer plus tard devant le tribunal correctionnel après avoir refusé ce mardi la procédure de plaider coupable proposée par le procureur.
J'attends quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'on a subi, de ce qu'on a ressenti. On n'atteint pas la vie des gens comme ça. On remet pas en cause leur amour, on les dénigre pas comme ça. Et à la télé et partout, c'est pas rien ce qu'il a fait.
Depuis 20 mois, Eva multiplie les allers-retours en Algérie pour voir Mustapha, qui n'a pas souhaité s'exprimer. Sa compagne le dit tout aussi désemparée.
C'était Marie Cazadebé sur RFI. Dans un peu plus de 30 secondes, en moins d'une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir. Puis ensuite, RFI Soir se poursuivra. À la une d'Afrique Soir, le président Félix Tshisekedi, dit la RDC qui s'est rendue ce matin à Luanda. Restez à l'écoute, Sylvie Berruet dans 30 secondes sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Guinée, le gouvernement est en immersion à l'intérieur du pays. Une tournée visant à s'enquérir des réalités de la population, mais une partie de la société civile y voit une campagne déguisée pour soutenir la candidature du général Doumbouya. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.